Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour à tous. Et je dois d'emblée vous rendre hommage pour votre fidélité. Très honnêtement, à votre place, je serais partie me promener par un si beau temps, mais je suis à peu près la seule ici qui ne puisse pas le faire. Donc la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur la lecture des entretiens de Confucius que donne le philosophe Li Zihou. Cette lecture nous a paru intéressante parce qu'on y voit comment un intellectuel chinois d'aujourd'hui se sert d'une source antique comme ressource pour penser des problématiques contemporaines. Alors, ce qui nous restera à examiner aujourd'hui, ce sera la manière dont cet intellectuel, ce philosophe, fait des choix de compréhension et d'interprétation pour arriver à faire dire aux textes classiques ce qu'il cherche à démontrer. Et donc, ça va nous obliger à entrer un peu plus avant dans les sources anciennes. Donc, nous allons de nouveau faire beaucoup de chinois aujourd'hui. Alors, pour reprendre là où nous en étions restés la dernière fois, si vous vous souvenez, nous avons vu comment Li Zihou, en s'étant d'abord intéressé à la philosophie esthétique, en est venu à se concentrer sur ce qu'il appelle le Ruxue, c'est-à-dire donc l'enseignement confucéen, les études confucéennes, vous avez l'expression ici. En se concentrant justement sur cet aspect confucéen, il a fini par le définir comme la structure psychoculturelle. Donc, il emploie cette expression qu'il a forgée lui-même, donc "wenhua xinli jiegou", donc qui est, selon lui, propre à l'identité chinoise. Donc, nous avons vu cette forte composante identitaire dans cette identification culturelle. Or, ce fond psychoculturel est, selon toujours Li Zihou, constitué par un mélange, une combinaison de ce qu'il appelle le kanwenhua, c'est-à-dire donc une culture du contentement, ou on pourrait dire justement en pensant au retour du printemps aujourd'hui, donc une sorte de la culture de la joie d'exister, de la joie de vivre, et d'un autre côté donc de rationalité pragmatique, shiyong li xing. Ce qui permet justement à Li Zihou de retrouver son intérêt premier pour la pensée esthétique, qu'il retrouve justement dans cette culture donc du plaisir ou du contentement, tout en l'intégrant dans un questionnement nouveau portant sur l'éthique, puisque pour lui donc cette raison pragmatique répond en fait à des préoccupations éthiques. Alors, nous avons vu justement que sur cette question, Li Zihou, sur la question donc de ce que c'est que cette culture confucéenne, Li Zihou se démarque par rapport à Mao Zedong, dont je vous rappelle que c'est un autre philosophe, mais qui est donc de la génération précédente, puisque Mao Zedong est né donc en 1909, il est mort en 1995, alors que Littoro donc est né 20 ans plus tard, donc en 1930. Donc ils appartiennent à des générations différentes et ils ont également fait des choix politiques différents, puisque Mao Zedong a pour sa part choisi de fuir le régime communiste en 1949, donc en s'exilant à Hong Kong puis à Taïwan. Alors, donc, ce clivage entre les deux philosophes est marqué notamment, on l'a vu la dernière fois, par les différentes périodisations qu'il propose pour les grandes étapes de l'histoire confucéenne. Donc, je n'y reviens pas. Vous vous souvenez peut-être que, selon Mao Zedong, nous avions une périodisation en trois grandes étapes, alors que Littoro en ajoute une quatrième, avec la prise en compte de l'étape, selon lui, très importante, de la fondation de l'ère impériale avec la dynastie Han, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais l'important là-dedans n'est pas tant dans le nombre de périodes distinguées, 3 pour Mao, 4 pour Li, que dans les partis pris théoriques qu'il y a derrière. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons Mao Zedong qui privilégie beaucoup trop exclusivement au goût de Littoro, donc qui privilégie la dimension de sagesse intérieure, donc de nation. Tandis que Littoro voudrait, pour sa part, réhabiliter la dimension de gouvernance, ou comme on dit en chinois, de royauté extérieure, Wai-Wang. Donc là, nous avions vu que ce sont là deux volets principaux et complémentaires, totalement indissociables du projet confucéen. Ce sont deux expressions tout à fait classiques, et que cette distinction donc entre ces deux volets était importante pour Littoro parce qu'il est urgent, selon lui, précisément de dissocier la dimension religieuse de la dimension politique, qui ont été, selon lui, inextricablement mêlées, aussi bien donc dans la très longue tradition confucéenne que dans l'héritage beaucoup plus restant du maoïsme. Donc il faut donc désormais faire très clairement la part entre ce que Littoro appelle donc d'un côté une morale sociale publique, shehui xing gong de, vous avez l'expression ici, et d'autre part une morale religieuse privée, donc zhongjiao xing si de. Donc nous avions vu, et c'est là que je pense nous en étions restés, nous avions vu que Littoro effectue ici un rapprochement tout à fait intéressant entre ces deux morales, la morale sociale et la morale religieuse, et le rapport entre deux termes clés que l'on trouve dans le texte des entretiens de Confucius, à savoir donc le terme de shu d'un côté et le terme de zhong de l'autre. Et là, donc, je vous rappelle donc les textes que nous avions vus ici. Donc, vous aviez donc ce fameux passage des entretiens au livre 4, section 15, qui était donc un dialogue entre un disciple de Confucius nommé Maître Zeng ici, et le maître, où là je résume, donc le maître interpelle son disciple pour lui dire, hein, donc le maître a tendance en fait à dire à ses disciples, vous avez l'impression que j'ai beaucoup étudié, ce que je vous transmets est extrêmement compliqué, et je vous dis beaucoup de choses, mais en réalité, donc, et ça c'est la phrase clé, wu tao. C'est-à-dire donc ma voix, hein, ce que j'enseigne, hein, en réalité tient à un principe unique, hein, qui traverse le tout. Hein, donc on avait vu qu'il y avait cette métaphore, si vous voulez, du fil unique qui tient toutes les perles du collier, et une autre métaphore classique qu'on trouve chez certains commentateurs et qui est aussi très imagée, c'est, si vous voulez, le fil qui tient les sapèques, hein, qui tient donc les monnaies chinoises, hein, qui, comme vous le savez, étaient anciennement percées d'un trou au milieu. Donc on transportait l'argent de cette façon, donc avec un fil comme un collier. Hein. Bien. Alors, les disciples justement se demandent ce que le maître entend par là, et donc le disciple en chef, si vous voulez, maître Zeng, donc répond. Il a ce commentaire: "Fuzi zhi dao, zhong shu er yi." C'est-à-dire donc le tao de notre maître, l'enseignement de notre maître tient donc en ces deux mots, hein, donc zhong et shu. Donc pour l'instant, je m'abstiens de traduire, parce que donc là je vais consacrer probablement la séance d'aujourd'hui justement à expliciter ces deux termes. Mais enfin, donc vous voyez un petit peu le contexte. Donc nous avons l'idée d'un principe unique, hein, qui se décline en deux termes. Alors je vous rappelle rapidement donc cette autre référence au livre 15, section 3, où le maître dit de nouveau, hein, que son enseignement tient à un seul principe, hein, donc yi guan zhi, c'est-à-dire donc moi en fait tout ce que je dis tient à un seul principe qui traverse le tout. Et alors nous nous étions posé la question de savoir quel est ce fil unique qui traverse tout l'enseignement de Confucius. Et un élément de réponse se trouve donc toujours au livre 15, mais à la section 24, hein, où un autre, donc qui s'appelle Zigong, vient demander au maître: est-ce qu'il y a un mot et un seul, hein, que l'on puisse mettre en pratique pendant toute une vie, hein. Alors là, si vous voulez, on pourrait dire que venir trouver le maître pour lui dire: bon, est-ce que votre enseignement, hein, peut tenir en un seul mot, hein, ça c'est un souci tout à fait actuel, hein. Je ne vous dis pas le nombre de journalistes qui viennent me demander: bon, le confucianisme en un mot, hein. Bon, je dis: bah écoutez, vous avez la réponse précisément dans ce passage des entretiens, et vous avez la réponse dans la bouche même du maître. Alors, le maître répond, hein, donc ce mot unique, hein, est-ce que ce ne serait pas ce mot shu? Il explicite quelque peu ce qu'il entend par là, en disant donc ji suo bu yu wu shi yu ren. Ça c'est vraiment donc une formule fameuse, s'il en fut, donc dans les entretiens: ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, hein, que pour toi, ne le fais pas aux autres. Donc ici, vous avez ici ce mot « ou » qui est un impératif négatif, hein, c'est-à-dire ne fais pas telle chose. Alors donc, ce fameux principe unique qui relie le tout, nous l'avions vu aussi, c'est ce que nous appellerions, à partir d'un contexte notamment chrétien, donc la règle d'or, Et cette règle d'or, c'est tout simplement donc le principe de réciprocité, donc qui est censé fonder la vie morale. Alors, donc, dans ce dernier passage du livre 15, section 24, elle apparaît dans une formulation négative, c'est-à-dire ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et cette formulation négative, on la retrouve également dans la section 12 du livre 5, dans un dialogue, comment dire, en situation, un dialogue très vivant, entre là aussi toujours ce même disciple Zi Gong et le maître. Alors Zi Gong Yue, donc ce disciple dit, Wo Bu Yu Ren Zhi Jia Zhu Wo Ye, Wu Yi Yu Wu Jia Zhu Ren. Alors donc le disciple se vante en disant donc. Il arrive auprès du maître tout content de lui, enfin il lui dit ce que je n'aimerais pas me voir imposer par autrui, je n'aimerais pas l'imposer davantage à autrui. Donc ici vous avez de manière intéressante un autre négatif ici, ou qui est en fait le contraire donc du verbe yo, c'est-à-dire avoir ou y avoir. Autrement dit, si je veux traduire littéralement, c'est ce que je n'aimerais pas me voir imposer par autrui. J'aimerais que rien de cela ne soit imposé à autrui. Donc, je n'aimerais pas donc l'imposer à autrui. Et alors là, le maître répond par un commentaire assez ironique, Zi Yue, Si Ye, Fei Er Suo Ji Ye. Donc, il l'appelle toujours par son nom personnel. Ce n'est pas, Fei, donc là aussi négatif, ce n'est pas quelque chose que tu as atteint, ou quelque chose qui est déjà à ta portée. Autrement dit, mon pauvre ami, tu en es encore loin. C'est-à-dire, donc le disciple arrive tout content en disant, bon, j'ai bien appris la leçon, j'applique cette règle, ce que j'aimerais pas qu'on m'impose, je l'impose pas aux autres. Mais le maître lui répond, bah écoute, tu reviendras plus tard parce que tu n'y es pas encore. Donc là, en fait, ce que nous retenons de ce passage, c'est que nous avons donc de nouveau une formulation négative de cette fameuse règle d'or, mais on trouve dans les entretiens de Confucius également une formulation positive qui ne revient pas tout à fait à dire la même chose comme on va le voir. Alors cette formulation positive, vous la trouvez notamment donc au livre 6, section 30, où vous avez de nouveau, alors là c'est intéressant de le noter, un dialogue toujours avec le même disciple, Zi Gong, qui décidément s'intéresse beaucoup à cette question, puisque c'est toujours lui qui vient poser donc ce genre de question. Alors, Zi Gong yue, Ru you bo shi yu min, er neng ji zhong. 何如? 可谓人乎? Alors donc, Zi Gong demande s'il se trouvait quelqu'un, donc là vous avez le yo dont je parlais tout à l'heure, s'il y avait quelqu'un pour étendre largement ses bienfaits au peuple et venir en aide à la multitude, 何如? Qu'est-ce que vous en diriez? Qu'est-ce qu'on pourrait en penser? Est-ce qu'on pourrait considérer ce quelqu'un comme incarnant donc le ren, le summum du sens de l'humain. Je reviens tout de suite sur ce terme. J'en finis avec le dialogue pour l'instant. Toujours est-il que là, il faut savoir que le disciple vient trouver le maître pour lui demander une précision justement sur ce qu'il entend par ce mot « ren », qui est manifestement pour Confucius vraiment le sommet, si vous voulez, de la valeur morale. Alors, le maître répond, Ziyue, He shi yu ren, pourquoi est-ce que ce serait seulement donc du sens de l'humain, hein, pourquoi il faudrait s'arrêter donc au sens de l'humain, Pi ye sheng hu, ce serait nécessairement de la sagesse suprême ou de la sainteté, hein, sheng. Dans ma leçon inaugurale, j'ai eu l'occasion justement de faire allusion à ce mot sheng, où vous retrouvez justement ce fameux graphème de l'oreille, hein, dont je parlais dans ma leçon inaugurale. Donc, si vous voulez, le sage, hein, c'est à la fois celui qui... Vous avez le graphème de l'oreille et à côté le graphème de la bouche. Hein, donc, le sage, hein, suprême, c'est celui qui à la fois donc, sait écouter et qui aussi s'exprime. Hein, donc, celui qui saurait justement subvenir aux besoins de la multitude, qui serait toujours à l'écoute, hein, du peuple, ce serait tout simplement de la sainteté suprême. Et même Yao Shun, donc Qi Yao Ping Zhu, c'est-à-dire donc même un Yao et un Shun qui sont des sages de l'Antiquité mythique, hein, même eux auraient trouvé ça difficile, hein, ils y auraient peiné. Alors, Fu ren zhe, ji yu li er li ren, ji yu da er da ren, neng jin qu pi, ke wei ren zhi fang ye yi. Donc, quant au sens de l'humain, hein, ce fameux terme de ren, hein, ça consiste en fait à ji yu li, c'est-à-dire partir de son désir pour soi de, comment dire, li, c'est littéralement se tenir debout. Alors vous pouvez le prendre au sens très général, hein, de se tenir debout dans la vie, hein. Certains commentateurs y voient un sens plus spécifique, dans la mesure où li, ça peut vouloir dire aussi se tenir debout à la cour, hein, c'est-à-dire donc se rapprocher justement se tenir en société en étant donc reçu en haut lieu, hein. Donc désirer cela pour soi, hein, pour justement établir ensuite autrui, hein, faire tenir debout autrui, hein, partir justement de son propre désir d'aboutir, de réussir, hein, pour souhaiter la même chose justement à autrui. Et cette neng jin qu pi, donc avoir cette capacité donc de prendre analogie, hein, ou de prendre sa comparaison donc au plus près, hein, jin, c'est-à-dire finalement en soi-même, hein, c'est ce qui s'appelle donc la bonne méthode, le fang, hein, pour se mettre dans le sens de l'humain. Donc, ici, nous avons un passage important qui établit finalement le lien entre justement cette fameuse règle d'or, donc formulée positivement cette fois-ci, avec ce qui constitue véritablement le cœur de l'enseignement de Confucius, à savoir ce fameux terme de ren. Alors déjà, en fait, la graphie donc de ce caractère vous indique que vous avez ici donc à gauche ce qu'on appelle le radical, qui vous indique donc en fait le champ sémantique, hein, du terme en question. Et là, le champ sémantique, en fait, c'est le graphème de l'homme, hein, de l'humain. Et à côté, donc, vous avez, la dernière fois, nous avons vu le caractère 1, c'était un trait, et bien là, 2, c'est deux traits. Hein. Bon, donc jusque-là, vous pouvez vous vanter de savoir compter jusqu'à 2 en chinois. Hein. Donc ici, vous avez, en fait, dans la graphie même de ce terme, qui se prononce en chinois moderne « ren », c'est-à-dire de la même façon que l'être humain, donc « ren » aussi, vous avez donc l'évocation justement d'une humanité ou d'une qualité humaine qui ne peut se construire qu'à deux, hein, c'est-à-dire donc dans le lien humain, dans la relation humaine, hein, et non pas donc dans une sorte de comment dire d'individualité isolable. Hein. Alors, sur ce terme, ne vous inquiétez pas, hein, nous allons avoir amplement l'occasion de revenir dessus dans le cours de l'année prochaine, hein, puisque l'année prochaine, je continuerai justement mon propos justement sur cette revisite des entretiens. Hein. Alors, qu'il suffise de dire pour l'instant, donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, que c'est la notion... C'est cette notion de ren, donc de sens de l'humain, qui revient le plus souvent dans les propos de Confucius. Manifestement, c'est son grand dada. C'est ce terme qui représente pour lui l'alpha et l'oméga de la vie morale, en ce que, à la fois, donc, ce terme fonde le lien humain, hein, on le voit dans la graphie même du terme, et en même temps le porte à son plus haut degré, hein, et à ce qu'il a de meilleur. Hein. Pour lui, ren, ce n'est pas simplement bon, le fait d'être sympa avec les autres, hein, c'est, là je cite en fait un micro-trottoir que France Culture avec Ruban de Fer à propos d'une émission à laquelle j'avais été conviée justement pour parler justement de l'enseignement confucéen, et naturellement j'avais pas pu éviter de parler de ce terme de ren, donc France Culture avait donc jugé bon d'aller faire un micro-trottoir dans le 13e arrondissement, hein, où on trouve évidemment beaucoup d'émigrés chinois. Donc, ce que ça évoquait justement en fait, aux Chinois du trottoir du 13e, c'est ren, c'est être sympa avec les autres. Donc c'est évidemment un peu simple, mais en même temps, bon, ça vous dit tout de même, hein, que c'est quelque chose qui a marqué véritablement la psyché chinoise, hein, ou ce que Li Zihou appellerait donc cette structure psychoculturelle, hein, puisqu'on la retrouve jusqu'au trottoir du 13e. Bien. Alors, donc. Cette formulation donc positive de la règle d'or, hein, elle rejoint un autre commandement fameux, hein, qui est évidemment plus proche enfin de notre culture ambiante ici dans l'Europe christianisée, hein, c'est celle notamment que l'on trouve dans les évangiles, placée dans la bouche de Jésus. Là, je rappelle donc des références évidemment que je suppose tout à fait connues. Dans Matthieu, vous avez alors Matthieu aussi, livre 7, section 12. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Et dans un autre passage de Matthieu, au livre 22, section 39, à la question. Alors là, c'est là que vous voyez quand même que nos missionnaires, nos premiers missionnaires chrétiens qui ont été d'abord en contact avec la Chine au XVIIe, XVIIIe siècle, n'ont pas pu s'empêcher, évidemment, de faire un rapprochement entre justement cette rhétorique des entretiens de Confucius et celle des évangiles. Donc là aussi, dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, vous avez quelqu'un qui vient trouver donc Jésus et qui lui dit « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Et Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Un second commandement est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et c'est donc ce dire de Jésus, vous le retrouvez aussi dans d'autres évangiles, celui de Luc et de Marc. Hein, et naturellement, c'est un rappel aussi d'une prescription fameuse dans le Lévitique. Alors, vous savez aussi que ce commandement est poussé encore plus loin, c'est-à-dire au-delà de la simple règle de réciprocité, dans un passage de l'évangile de Luc, au livre 6, section 31, il y a ce fameux passage sur « À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre ». Donc là, on en fait un peu plus, si vous voulez. « À qui te prend ton manteau, donne aussi ta tunique. À quiconque te demande, donne, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. » Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Donc là, on peut déjà, bon, autant justement rappeler ce rapprochement possible entre justement la façon dont les dialogues des évangiles se présentent avec la façon dont les dialogues des entretiens de Confucius se présentent. Mais il y a quand même quelque chose qui les distingue d'emblée, c'est que vous avez justement dans cette prescription d'aimer le prochain comme soi-même, évidemment une sorte de résumé de l'agapé chrétienne, mais il faut rappeler que cette agapé, donc ce pas, se pratique sous le regard de Dieu, c'est-à-dire donc sous l'autorité d'une instance supérieure et même en l'occurrence divine, ce qui n'est pas le cas de la réciprocité dont il est question dans les entretiens de Confucius, puisque elle est rapportée justement à quelque chose d'humain et qui est rappelé dans le lien qui est établi justement avec cette notion de jen, c'est-à-dire donc de sens de l'humain. Alors, comme vous le savez aussi, cette règle d'or se retrouve par ailleurs dans de nombreuses sources de spiritualité, plus ou moins religieuses, ou de sagesse plus ou moins populaire. Mais elle ne semble pas avoir été suffisamment rigoureuse pour être prise sérieusement en considération par les philosophes. En effet, on peut lui reprocher d'être purement utilitariste. C'est-à-dire que, évidemment, c'est dans mon intérêt de faire en sorte que les autres ne m'inflige pas ce que je ne désire pas pour moi-même. Ou du moins, donc, de cette règle d'or, on peut évidemment arguer du fait qu'elle se situe dans une perspective pour le moins pragmatique. Et c'est probablement justement ce qui va dans le sens de cette raison pragmatique qui, selon Li Zihou, caractériserait donc l'esprit confucéen. Alors, on peut aussi reprocher à cette règle d'or le fait qu'elle n'est pas universalisable sous la forme de loi morale ou d'impératif catégorique. hein, c'est-à-dire donc d'une loi ou d'un impératif qui soit valable et applicable en tout temps et en tout lieu. Et je vous rappellerai donc à ce propos donc la citation bien connue de l'auteur anglais George Bernard Shaw, hein, qui disait donc « Do not do unto others as you would expect they should do unto you. Their tastes may not be the same. Hein, » c'est-à-dire donc « Ne fais pas aux autres ce que tu attendrais qu'ils te fassent, hein, parce qu'il se peut qu'ils n'aient pas les mêmes goûts. » Donc ça c'est le pragmatisme anglais donc qui s'exprime évidemment avec un certain humour, mais en effet on peut vérifier à toute occasion que la règle d'or dans sa formulation positive ne manque pas de soulever un certain nombre de problèmes, hein, parce qu'on s'aperçoit quand même assez rapidement que vouloir pour les autres ce que l'on veut pour soi-même, hein, peut précisément revenir à imposer aux autres ses propres goûts, hein, ses propres aspirations ou ses propres priorités. Là, je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec l'actualité la plus brûlante. Nous pouvons penser notamment justement à ces propos du pape Benoît XVI, hein, sur la prévention du sida. Donc, évidemment, Benoît XVI parle à partir évidemment de ses propres priorités. Évidemment, si on applique la règle d'or dans ce cas-là, ça peut être tout à fait problématique. Alors, c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle les entretiens à Paris, donc cette notion de réciprocité, cette fameuse notion donc de chou, avec un autre terme donc qui est celui de chong. Alors, bien sûr, le fait que ce fameux passage des entretiens que j'ai cité, le fait qu'il indique donc deux principes, c'est-à-dire chong et shou, pour un fil unique, ça n'a pas manqué évidemment d'intriguer pas mal de commentateurs, aussi bien d'ailleurs dans la tradition exégétique chinoise, hein, qui est longue de plus de deux millénaires, que dans la tradition commentariale et interprétative, herméneutique pour faire savant, donc occidentale. Certains d'ailleurs sont même allés jusqu'à considérer que l'ajout de chong est une interpolation tardive, hein, puisque effectivement, dans les autres occurrences du mot shou, à propos justement d'un principe unique, hein, ne figure justement que ce mot shou, sans le mot chong. Alors le seul problème, c'est que ce mot shou, donc on ne figure que deux fois donc dans tous les entretiens, justement dans ces deux passages que vous avez ici donc devant vous, alors que le mot chong revient en tout 16 fois. Donc dire que c'est une interpolation tardive, là aussi c'est pas exactement satisfaisant comme explication. Et donc d'autres commentateurs ont vu dans ce deuxième terme chong justement un moyen de fonder cette fameuse règle de réciprocité donc qui est contenue dans shou. Alors pour revenir justement à l'interprétation donc que donne Li Zihou, hein, de ce passage du livre 4 section 15, Li Zihou en fait suit d'assez près une interprétation du mot, enfin de ces deux mots, qui est devenue canonique depuis un auteur du IIIe siècle, à savoir un certain Wang Pi, et qui dit ceci, Le commentaire de Wang Bi dit à propos de Zhong, donc, Zhong zhe qing zhe jin ye, c'est-à-dire donc, Zhong s'est allé littéralement donc, jusqu'au bout, jusqu'au fond de ce qu'on ressent. Qing, c'est un terme qui indique justement tout le ressenti. Alors pour aboutir justement à au sens de sentiment, de passion. Mais enfin ici donc on peut dire que Wang Bi comprend donc ce mot Zhong comme le fait d'épuiser, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on ressent. Et c'est une interprétation donc qui est reprise presque un millénaire plus tard, donc au XIIe siècle, par le grand exégète Zhu Xi, qui dit ceci: Jin ji zhi wei zhong, tui ji zhi wei shu. C'est-à-dire donc, il emploie le même verbe jin, qui veut dire donc aller jusqu'au bout, épuiser. Jin, c'est vraiment le fait de par exemple quand vous videz un tonneau, vous le videz jusqu'au fond, quoi. Donc jin, c'est ça. Donc aller jusqu'au bout de soi-même, c'est ce qu'on appelle zhong. Et ensuite, transférer, littéralement pousser ce qu'on a fait sur soi-même vers autrui, c'est ce qu'on appelle shu. Donc ici, cette interprétation donc devenue canonique indique donc une double exigence, c'est-à-dire à la fois exiger beaucoup de soi-même pour mieux se porter vers autrui. Et c'est donc cette interprétation qui est quand même relativement tardive, puisqu'elle ne date que du IIIe siècle de l'ère chrétienne, donc, c'est-à-dire donc, presque un millénaire donc, après le vivant de Confucius, donc, qui est retenue par Li Zihou, et qui en fait donc, le fondement même de ce qu'il appelle la rationalité pragmatique. Mais en même temps, Li Zihou donc rappelle une glose ancienne de ce mot shu, et de ce mot zhong, et qui joue, en fait, c'est une glose qui joue justement sur la graphie de ces termes. Même sans lire le chinois, vous remarquerez, c'est pour ça que j'ai essayé de vous les mettre en plus gros surligné, donc vous remarquerez qu'ils comportent tous les deux cette même composante en bas. Alors cette composante, c'est ce qu'on appelle là aussi le radical. Le radical, tout à l'heure, vous l'aviez à gauche du caractère. En fait, le radical peut se mettre partout, c'est-à-dire il peut se mettre en haut, à gauche, à droite, en bas. Enfin, alors ici, il se trouve en bas, et c'est donc le radical du cœur, c'est-à-dire justement le siège du ressenti, c'est-à-dire le siège des affects. Mais en fait, dans la vision chinoise des choses, c'est aussi le siège de ce qu'on pense. Je dirais entre parenthèses, je préciserai entre parenthèses que faire du cœur le siège à la fois des affects et de l'intellect, ça rejoint d'une certaine manière en fait certaines théories cognitives actuelles. Bon, je referme la parenthèse. Donc vous avez ici donc cette composante commune du cœur. Et donc, on peut justement, comme Li Zihou, reprendre cette glose ancienne qui dit que finalement, Zhong, c'est le fait d'avoir le cœur littéralement au milieu. Vous avez au-dessus la composante Zhong qui veut dire au centre ou au milieu. Vous connaissez sans doute ce caractère justement à propos de de la désignation de la Chine elle-même, Zhongguo, c'est le pays du milieu. Hein. Et en fait, ce graphème en fait indique la centralité par une flèche qui traverse une cible de part en part. Hein, ici, donc Zhong, c'est cette image donc d'une tout à fait d'ailleurs ritualiste, hein, d'une flèche qui traverse la cible. Et de la même manière, donc, on peut gloser donc, ce terme de chou par sa graphie, dans la mesure où vous avez en bas aussi le graphème du cœur et en haut donc, un composant qui se prononce donc, en chinois moderne zhou, et qui établit une équivalence entre deux termes. Ça fonctionne un petit peu comme le signe égal, ou qui établit une comparaison, une identité. Hein, ça veut dire comme, semblable à, identique à. Hein. Et donc, ce terme de chou, on pourrait le gloser de cette façon à partir de la graphie, c'est-à-dire donc mettre en équivalence les cœurs, hein, c'est-à-dire donc établir en fait une équivalence entre ce que je ressens et ce que peut ressentir l'autre. C'est exactement la façon dont ce terme justement est expliqué par Confucius justement dans les occurrences des entretiens que nous venons de voir. C'est-à-dire donc juger de ce que peut désirer autrui à partir de ce que je désire moi-même. Alors, Li Zihou, justement, voit dans la présence de ce radical du cœur, hein, dans la graphie de ces deux termes, le signe qu'il n'y a pas là que de la raison, hein, fût-elle pragmatique, mais aussi du cœur, c'est-à-dire de l'affectif. Autrement dit, nous avons dans ce doublet Zhongshu un principe moral qui permet rationnellement la vie en société, mais qui prend aussi racine dans le cœur, c'est-à-dire dans les émotions et les affects. Et donc, en envisageant justement ces deux termes de cette manière, Li Zihou y voit tout simplement le fondement de ce qu'il appelait, comme je le rappelais tout à l'heure, d'une part donc la morale sociale publique, hein, qui correspondrait justement à Shu, c'est-à-dire cette capacité de se rapporter à autrui, hein, et d'un autre côté donc la dimension donc de morale religieuse privée. Hein, qu'il voit justement dans Zhong, c'est-à-dire le fait, selon la graphie, justement, de rester centré, hein, sur son cœur, hein, c'est-à-dire donc d'être d'une certaine manière fidèle et fidèle à soi-même. Alors, ce que je viens d'évoquer, c'est donc l'interprétation de Li Zihou. Et donc, je disais justement pour le taquiner un petit peu, hein, qu'en bon philosophe, hein, on se doute bien qu'il a fait en sorte que sa compréhension justement des textes, des entretiens et des termes employés dans ces textes, hein, sa compréhension aille justement dans le sens voulu, hein, c'est-à-dire dans une conception préétablie justement de la vie morale. Hein. Alors, il faut cependant préciser, et là c'est donc moi en tant qu'historienne des idées qui parle, que s'il y a plus ou moins consensus concernant justement l'interprétation de ce mot chou, sur lequel Confucius est en plus un petit peu plus disert et qui semble effectivement désigner une forme de considération pour autrui, une capacité à se mettre à la place des autres. Hein. Alors par contre, les avis divergent complètement, hein, quant à la compréhension de de zhong. Et par conséquent, évidemment, si on comprend le mot zhong autrement, ça influe évidemment sur la compréhension qu'on a de ce doublé. Alors, comme on l'a dit, l'interprétation de Li Zihou reprend donc dans ses grandes lignes l'interprétation devenue canonique justement depuis le IIIe siècle, c'est-à-dire donc zhong, c'est aller jusqu'au bout de soi-même, ou si vous voulez, bon, plus généralement, faire de son mieux, faire vraiment le maximum d'efforts. Mais si on en juge par les autres occurrences du mot dans les entretiens, et comme je le rappelais tout à l'heure, il y en a 16 au total, il en ressort plutôt que le terme de zhong désigne en fait le sens de ses obligations rituelles, notamment dans un contexte politique hiérarchisé, c'est-à-dire ses obligations rituelles vis-à-vis de ses supérieurs. Et alors là, donc, c'est quand même intéressant de voir que dans les entretiens, vous aviez donc cette combinaison de zhong et shou, c'est-à-dire donc zhong. Alors là, justement, il reste à savoir comment le comprendre. Couplé avec justement cette considération pour autrui. Mais dans les autres occurrences de zhong dans les entretiens, vous le trouvez très souvent à Paris avec cet autre terme, qui est le terme de xin. Alors ce terme de xin, j'ai oublié de vous mettre la transcription, la transcription pin, donc c'est X-I-N. Alors c'est pas xin, mais c'est xin. Donc, alors xin, là aussi, on peut justement étudier un petit peu la graphie du terme, puisque vous retrouvez encore une fois à gauche le radical donc, qui vous indique qu'il s'agit du champ sémantique de l'humain, c'est donc l'homme ici à gauche, et donc le restant du caractère est un graphème qui désigne la parole. Avec là aussi donc en bas le graphème de la bouche toujours. Ce carré là en fait c'est la bouche. Donc Xin en fait pourrait être compris justement à partir de sa graphie comme le fait justement pour l'humain d'être entièrement dans sa parole. Et de fait ce terme de Xin en est venu à désigner justement la qualité de fiabilité, c'est-à-dire le fait d'être fiable. Autrement dit, le fait d'être digne de confiance. Donc, Xin, d'ailleurs, c'est le sens que ce terme a pris justement dans la langue moderne. C'est Xin, c'est la confiance. Alors, c'est tout à fait intéressant justement de voir. La récurrence plus exactement très fréquente du mot zhong avec ce mot xin, à tel point que dans la langue courante actuelle, zhong xin, c'est pratiquement une expression consacrée, ça va ensemble. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que nous avons dans ces deux termes des relations qui sont de type hiérarchisé. Zhong, en fait, c'est donc ce que l'on doit rituellement à des gens qui sont au moins supérieurs à vous dans la hiérarchie. Et Xin, c'est justement ce qui caractérise une relation entre amis, c'est-à-dire en fait la seule relation égalitaire que justement la vision confucéenne envisage, hein, puisque ensuite ce sera formalisé que sous les fameuses cinq relations. Hein, vous avez d'abord la relation cardinale entre le souverain et son sujet, ou le souverain et son ministre, hein, qui sert de modèle ensuite à la relation entre le père et le fils. Là aussi, donc, relation hiérarchisée, hein, qui elle-même sert de modèle à la relation entre mari et femme, là aussi, hiérarchisée, c'est inutile que je précise dans quel sens. Hein. Ensuite, vous avez la relation donc, entre le frère aîné et le frère cadet, hein, et puis, donc, en cinquième position, vous avez la seule relation égalitaire donc, dans toute cette configuration, donc, c'est la relation entre amis. Hein. Et donc, Xin caractérise justement cette relation entre égaux, si vous voulez, entre amis. Donc, ça paraît tout à fait intéressant, justement, de replacer hein, donc cette notion de Zhong hein, dans son contexte originel, hein, qui est un contexte fortement ritualisé. Hein, et justement, je crois qu'il va falloir que je m'arrête là parce que je crois qu'il est trop tard pour que j'aborde justement alors cette série de textes que je garde pour la prochaine fois donc, puisque nous allons devoir nous expliquer pourquoi justement Li Zihou extrait ce couplet donc Zhong Shu de son contexte ritualiste. Pourquoi est-ce qu'il éprouve le besoin justement de faire abstraction en fait de ce contexte ritualiste dans lequel Confucius lui s'exprime. Bien, pour aujourd'hui, alors donc vous pouvez aller vous promener et je vous remercie de votre attention. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.